Alors, Ève Thorez est arrivée au Québec il y a 20 ans. C'est une Québécoise donc d'origine française. S'est convertie à la religion musulmane à un moment donné dans sa vie. D'ailleurs, elle porte fièrement le voile. Il y a quelques jours de ça, elle a annoncé qu'elle se présentait à l'investiture de Québec solidaire dans la nouvelle circonscription de Mont-Royal-Outremont, parce qu'ils fusionnent les deux comtés. Si elle gagne, elle deviendra la première femme voilée candidate dans une élection québécoise. Ève Thorez, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Alors, évidemment, je me suis bien préparé pour l'entrevue. J'ai lu que vous ne souhaitiez pas qu'on vous définisse par votre appartenance religieuse. Et en même temps, j'ai vu dans l'entrevue que vous avez donnée au Devoir, vous avez dit « ça suffit la campagne politique autour de l'identitaire hein? ». Et là, je me suis dit, il y a quand même un paradoxe là-dedans, Ève Thorez, parce que le fait que vous portiez le voile, veut pas, ça marque votre identité. Ça marque une identité religieuse ou une appartenance religieuse. Pas juste ça, vous n'êtes pas que ça, mais vous êtes ça. Et c'est ce que les gens vont voir de vous. Pas juste ça, mais ils vont voir ça de vous. Comment vous réconciliez cette volonté? D'un côté, vous dites l'identitaire, là, moi je suis tanné de ça, mais en même temps, vous affichez fièrement votre identité.
Alors effectivement, lorsque les gens me voient, c'est clair, ils voient que je suis une femme de confession musulmane. Il n'y a pas de tricherie.
Exact.
Mais quand j'aborde cette question de l'identitaire, j'en parle essentiellement en concernant les débats politiques des 10 dernières années, tout ce qui concerne débat médiatique, etc.
Ouais.
Donc, c'est vraiment autour de ces positions-là. Ça a été des choses qui ont été discutées, débattues pendant... Les campagnes électorales ont tourné autour de ça. Donc, on a les personnes comme celles que je peux représenter, va-t-on dire, en fait, ont fait beaucoup l'objet de tous ces débats des dernières années.
Vous êtes senti visé, vous, personnellement?
Bien, personnellement, oui, puisqu'on a fait partie donc de tous ces débats politiques et médiatiques, selon moi aussi pour aller chercher des votes et pour détourner peut-être en même temps les citoyens et les citoyennes d'autres enjeux. Et mon point est qu'aujourd'hui, je pense que le Québec est prêt à parler d'autre chose, et c'est en ce sens que je dis j'espère qu'on ne fera pas encore des débats autour de cette question-là. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que je pourrais spécifiquement représenter, mais plutôt aller dans la campagne électorale qui s'en vient sur des réels enjeux de société.
Mais vous ne pensez pas qu'il serait temps qu'on... Moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut à un moment donné penser à autre chose, mais pour penser à autre chose encore, faut-il régler la chose. Et à un moment donné, ça va prendre une espèce de résolution. Un compromis, nécessairement. Vous ne pensez pas qu'il serait temps qu'on adopte un compromis et qui nous permettrait peut-être par la suite justement de trouver une forme d'apaisement puis de passer à autre chose, notamment sur la question des signes religieux. Vous ne pensez pas qu'il serait temps qu'on trouve un compromis?
Bien, en fait, si on parle des vraies affaires, comme on dit, il y a le Parti libéral qui a le pouvoir depuis très longtemps.
Ouais.
On s'entend là-dessus. Et ce parti n'a pas été encore capable, depuis toutes ces années, d'amener des politiques claires et précises qui, justement, favoriseraient ce fameux vivre ensemble dont on parle, permettraient l'accès à des emplois en passant par la reconnaissance des diplômes.
D'accord.
Toutes ces positions, la représentation de la diversité dans les institutions, etc., il n'y a aucune politique qui a été mise en place de nos jours, justement, pour qu'on puisse passer à autre chose.
Alors, Québec solidaire, dont vous souhaitez être la candidate, est d'accord pour dire les personnes qui sont en position d'autorité, les policiers, policières, gardiens de prison, les juges, ça devrait être la neutralité, y compris dans les vêtements, y compris dans le code vestimentaire. On ne devrait pas pouvoir afficher un signe religieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position?
Alors, sur cette question, j'ai choisi, et ça j'aime bien le dire, j'ai choisi Québec solidaire parce que, effectivement, je soutiens les propositions de mon parti. Donc, j'ai choisi ce parti-là pour le projet de société qu'il représente, selon moi, et auquel j'aspire. Et c'est là-dessus qu'on envisage de travailler. Et les propositions de Québec solidaire sont claires pour régler les problématiques aussi dont je vous évoquais, que je vous évoquais tout à l'heure, qui concernent vraiment tout ce souci de représentativité, ces luttes aux discriminations. Donc, il est clair que si je me présente pour Québec solidaire, je défends les positions de mon parti.
Donc, vous êtes d'accord avec l'interdiction des signes religieux pour les personnes en position d'autorité?
Je suis...
Je vous sens hésitante.
Vous me sentez hésitante?
Oui.
Mais comme je vous le dis, c'est important pour moi de représenter mon parti et je sais qu'on va savoir s'attaquer aux enjeux réels, vraiment dont la population a besoin aujourd'hui, et c'est d'établir toutes ces politiques dont vous parlez, qui seront de s'assurer de la représentativité dans les institutions, d'une plus grande diversité entre autres, de se soucier que tout le monde ait accès à l'emploi, de s'attaquer aux reconnaissances des diplômes,
d'accord.
Tous ces enjeux-là.
Mais vous êtes d'accord, vous appuyez l'interdiction des signes religieux pour les policiers, les juges et les gardiens de prison.
Présentement, je suis vraiment avec les positions de mon parti.
Pourquoi vous ne pouvez pas juste dire « oui, je suis d'accord avec cette proposition-là » Oui?
Je suis d'accord avec les propositions de mon parti.
Okay.
C'est pour eux que je me suis engagée présentement, donc c'est là-dessus qu'on va continuer.
Très bien. Vous parliez du Parti libéral tout à l'heure. Mm-hmm. Eux autres, ce qu'ils ont déposé comme projet de loi et qu'ils ont fait adopter, c'est l'interdiction du visage couvert, mm-hmm. Quand on demande ou on reçoit un service de l'État. Est-ce qu'il est exact que vous avez participé à l'initiative pour faire déclarer cette loi inconstitutionnelle?
Excusez-moi. Oui, oui, tout à fait.
Vous faisiez
dans un cadre professionnel, en fait. C'était dans un contexte professionnel.
Avec quel groupe? Comment c'est
le ça? Le Conseil national des musulmans canadiens.
Voilà.
Donc, pour lequel j'ai travaillé 5 mois, en fait. Et nous avons défendu, donc nous avons porté en cours... nous avons demandé donc ce qui a été accordé que l'article 10 spécifiquement de la loi qui concerne recevoir et donner un service à visage découvert soit
suspendu.
C'est ce qui a été fait pour le moment.
Donc pour vous, demander un service à visage couvert, c'est acceptable dans notre société?
En fait, le point majeur dans cette question-là, c'était pas de savoir ni ce que je pense moi, ni ce que vous pensez vous par rapport à ça. Ce qui était important là-dedans, c'est de faire respecter des libertés fondamentales. Et en plus, le juge a pris cette décision parce qu'il y avait un article 11 qui suivait et qui était le fameux article qui permettait un accommodement, donc de faire une demande d'accommodement raisonnable pour cette question-là. Et il n'était lui-même pas en vigueur, donc il y avait une contradiction. Donc ici, on était dans la défense de libertés fondamentales, comme beaucoup d'organisations, la Ligue des droits et libertés, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, comme beaucoup s'étaient
prononcés. Mais pour vous, c'est un droit fondamental. On devrait avoir le droit de pouvoir demander, par exemple, un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie ou peu importe. On devrait pouvoir le faire à visage couvert au Québec. Pour vous, c'est un droit, ça.
Sur cette question-là, c'était un petit peu... En ce sens, un faux débat, puisque les personnes le peu de personnes qui étaient donc concernées, qui portent ce visage découvert, dans l'historique, se sont toujours pliées, on va dire, au règlement. Et lorsqu'elles allaient se présenter à un aéroport, lorsqu'on leur demande pour faire leurs photos, etc., lorsqu'on leur demande de se découvrir le visage, elles l'ont toujours fait. Il n'y a pas eu une problématique concrète en ce sens. Qui avait démontré que les personnes avaient refusé de s'identifier. Donc, dans leur quotidien, ces personnes-là ont toujours suivi des règlements. Je pense, encore une fois, le Parti libéral a voulu prendre une position un petit peu à la va-vite pour essayer de régler ou pour essayer de marquer une position. Et puis, finalement, ça a été un échec pour eux.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire, Madame Torres, lorsqu'elle va... par exemple, traiter de sujets moraux, de questions morales, comme par exemple l'avortement ou la contraception ou les droits des gays, sur toutes ces grandes questions morales qui ne sont pas tout à fait réglées, qui ne le seront sans doute jamais tout à fait, les gens vont se dire, est-ce que ces convictions religieuses vont dicter ces positions politique, ses positions personnelles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que les gens vont dire, elle porte le voile, donc pour elle, la religion, c'est ce qui est, c'est sa valeur suprême. C'est ce qui est le plus important pour elle. Donc, comment elle concilie son appartenance à une religion qui a un certain nombre de positions sur ses valeurs morales, sur ses questions morales, et les choix qu'elle devrait faire éventuellement comme députée?
Déjà, je trouve ça fascinant parce que on se pose des questions sur ma personne parce que j'ai une apparence, mais on pourrait poser cette question à n'importe qui, finalement, parce que c'est pas même des personnes qui n'ont pas forcément
un signe religieux
apparent. Peut-être ces questions-là ou peuvent avoir des idées en ce sens également. Donc, puis même sans apparence de signe religieux, les gens peuvent avoir une foi ou quelque chose qui les amène là-dessus. Pour ma part, je suis féministe, humaniste. Je joins un parti qui se dit aussi féministe, qui défend les droits et libertés fondamentales, qui se veut inclusif, qui défend toutes les discriminations. Et
qui lutte contre toutes les discriminations.
Exact.
Oui, oui.
Et j'intègre ce parti-là. Je représente, pour moi, je représente toutes ces personnes, toutes les personnes qui sont aussi aux marges, parce que j'ai une compréhension de tous ces enjeux-là. Donc, il n'y a pas de contradiction, de non-sens en ce que je pourrais représenter pour certaines personnes et la personne que je suis vraiment et les luttes pour lesquelles je suis engagée depuis de nombreuses années maintenant, plus de 16 ans maintenant au sein de notre société, en fait.
C'est ça. Pourquoi vous avez choisi le Québec? Parce que vous êtes passé par la France. Est-ce que vous êtes née en France?
Oui, je suis née en France. Je suis
née
dans le sud de la France. Oui. J'y ai passé 5 ans avec ma grand-mère et mes arrière-grand-mères. Et ensuite, donc, j'ai rejoint ma mère à Paris. J'ai choisi le Québec quand j'étais adolescente. Mon cousin vivait ici. Donc, avec sa mère et son beau-père était Pierre Bastien, le directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic. Et je passais mon adolescence à Brossard, sur la rue Bordeaux, pendant mon adolescence. Donc, j'allais en vacances ici. Et comme le choix, vous avez parlé tout à l'heure de ma conversion à l'islam, etc. Donc, comme tous ces choix personnels de vie, à un moment donné, je me suis dit, je suis tombée assez vite en amour avec le Québec et je me suis dit, c'est là-bas, pour des raisons personnelles aussi, un parcours familial et tout ça, j'avais besoin de distance et j'ai choisi le Québec. Et ce qui m'a fait choisir le Québec en Amérique, c'est la première chose, je pense que c'est mon amour pour la langue française et le fait qu'on soit ici en Amérique du Nord avec cette langue, la possibilité de travailler dans cette langue, de vivre dans sa langue.
De bâtir une démocratie dans cette langue aussi et d'avoir nos propres débats dans cette langue.
Oui. Je suis très attachée, je suis francophone, francophile, donc c'est quelque chose qui était très important et donc
C'est votre pays maintenant.
C'est mon pays. Ça m'a pris, je l'ai dit souvent, ça m'a pris 2 ans, je pense, pour me sentir québécoise. Ça va faire 20 ans que je suis là. Et je dis toujours, ça m'a pris 2 ans parce que c'était important pour moi de comprendre la culture, le système politique, la manière de fonctionner, de comprendre même les accents. C'était drôle parce qu'à l'époque, je regardais Jean-Luc Mongrain sur le mouton noir de la télé TQS. Et au début, j'avoue que c'était pas évident, mais le Québec, c'était important de choisir aussi pour ça.
Bien, je le fais avec chaque candidat et candidate qui se sont présentés à ce micro et qui se présenteront à ce micro pour la suite des choses, peu importe le parti. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses, parce que se lancer en politique, surtout de nos jours, ça n'a jamais été simple, mais se lancer en politique de nos jours, c'est pas évident parce que la fonction est passablement discréditée et les gens sont très cyniques.
Et pour les femmes également, c'est encore aujourd'hui, en 2018, c'est encore une difficulté, non seulement sur nos capacités, mais sur nos tenues vestimentaires, sur notre physique, ça revient beaucoup.
Mais je voulais quand même qu'on ait cette discussion-là et j'espère que ce ne sera pas la dernière, mais je souhaitais d'une certaine façon crever l'abcès. Parce que le journal Le Devoir vous a présenté comme ça, comme la première, une femme voilée fait leçon en politique avec Québec solidaire. Moi, je dis, ah bon, tiens, Mais elle s'assume, elle s'assume.
Vous savez, il y a toujours une première fois pour tout.
Ouais,
il y a eu une première femme en politique.
Voilà.
Il y a eu un premier homme noir, il y a eu un premier sikh, il y a eu un premier... Et ça s'inscrit dans une continuité.
Vous avez le sentiment de faire l'histoire, d'une certaine façon ?
De marcher dans les pas d'autres et de continuer à ouvrir des portes. Je vois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de soutien. Moi, ce qui se passe présentement dans les journaux et qui était attendu dans certains journaux, c'était très prévisible. Mais je vous dis, avec les gens, tous les gens que je croise, j'ai un soutien formidable. J'ai beaucoup de jeunes et ça me passionne. J'ai énormément de jeunesse qui est derrière moi et qui est motivée.
Je tiens à vous remercier pour l'entrevue.
Moi,
et je rappelle...
Aussi.
Vous me remerciez aussi. Bon, vous voyez, on se remercie mutuellement. Et je rappelle que vous serez candidate à l'investiture de Québec solidaire dans Mont-Royal-Outremont. À date, vous êtes la seule candidate à ma connaissance.
Présentement, mais je n'écarte pas jusqu'au 26 avril minuit. Je fais le travail comme si quelqu'un allait se présenter en face de moi parce que rien n'est acquis. Puis c'est le travail qui fait en sorte qu'on sera éventuellement choisi par nos concitoyens.
Merci.
Merci à vous.
On s'arrête. Et puis au retour, on va parler de cette nouvelle politique qui va faire en sorte que quand on fait des travaux à Montréal, on les fait correctement. Et si on veut aller les refaire après, c'est pas possible de le faire. On en parle après la pause.